Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est l'heure de l'interview avec Bertrand Charréron au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Charréron, vous êtes directeur du Salon international Tech and Bio 2025 qui aura lieu donc pour cette rentrée. Deux journées consacrées au progrès technologique, bio aussi, concernant l'agriculture. Alors, qu'en est-il depuis cette création de ce salon, le 10e donc, est-ce qu'il y a eu une évolution flagrante de ce festival à l'adresse des agriculteurs conventionnés, par exemple?
Alors, en effet, depuis la première édition qu'on avait organisée en 2007 sur une exploitation bio là, de M. Philippe Abrard à Chantenay-les-Blés, dans le Nord-Rome, on avait en effet souhaité répondre à toutes les questions donc des agriculteurs, en bio notamment, qui se posaient encore des questions, des problèmes techniques, des leviers techniques à trouver sur leurs différentes productions. Et on s'est très vite aperçu, après donc plusieurs éditions, qu'on répondait aussi à des questions d'agriculteurs conventionnels qui souhaitent en effet faire évoluer leurs pratiques et aller vers de plus en plus vers des techniques alternatives aux produits phytosanitaires notamment.
En quoi cette reconnaissance internationale est effective sur ce Tech and Bio?
Cette dimension internationale, elle est à la fois au niveau des exposants, puisqu'on a de plus en plus d'exposants étrangers, alors bien sûr plutôt des voisins donc français de la France, donc des voisins européens, donc l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, mais aussi au niveau du visitorat, puisqu'on a de plus en plus de visiteurs étrangers, et là, ça s'élargit bien plus, puisque lors de la dernière édition, on a eu en effet des visiteurs des 5 continents. On peut en être fier, mais en effet, des Japonais, des Australiens, des Canadiens. Donc en effet, cette dimension internationale, on peut la revendiquer, même si en effet, on souhaite avant tout répondre aux attentes de nos agriculteurs locaux.
Alors, c'est sur deux journées, il y aura 375 exposants, je crois bien, et puis il y aura 70 conférences. C'est un programme très dense pour un public, je crois qu'il avoisine 20 000 personnes, hein.
Voilà, en effet, on part en effet sur 350 exposants, 70 conférences, plus de 120 ateliers techniques. L'objectif étant donc de répondre aux nombreuses sollicitations donc des agriculteurs, quelle que soit leur filière. Hein. On essaye donc de formaliser cela autour de nombreux pôles techniques. On a 26 pôles techniques, bien sûr les grandes cultures, l'arboriculture, la viticulture, la filière abeille, l'apiculture, donc, mais aussi le maraîchage et toutes les filières donc, de l'élevage. Et notre objectif, en effet, c'est de proposer un programme technique pour chacune de ces filières.
Alors, pour ça, pour préparer chaque année le programme, vous avez vous opérez par sondage aussi les demandes ou les questions émanant de ces agriculteurs. Et pour vous, la tâche consiste à en trouver les réponses par le biais de conférenciers ou d'entreprises ou d'innovations?
On cherche en effet à répondre à l'ensemble des sollicitations donc des agriculteurs et on s'appuie pour cela sur l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture de France pour à la fois mieux connaître bien sûr ces attentes et identifier les meilleurs réseaux, les meilleurs intervenants pour répondre justement à ces problématiques. Donc on s'appuie bien sûr sur le réseau des chambres d'agriculture, mais aussi l'ensemble des réseaux partenaires, les réseaux de l'ACTA, hein, les instituts techniques, les réseaux de l'INRAE et le réseau aussi des agriculteurs bio pour essayer donc de répondre au maximum à l'ensemble des questions des agriculteurs bio.
Comment vont se dérouler? Donc, je crois qu'il y a en quelque sorte un site hein, installé dans l'école que vous citiez en début d'émission.
Oui, on a la chance en effet d'avoir conventionné avec le lycée agricole du Valentin, qui est d'une part tout proche de la chambre d'agriculture, mais surtout qui est très diversifié et sur lequel nous avons pu implanter en plus un petit peu de vignes et un petit peu de plantes aromatiques pour venir compléter la gamme en effet des différentes productions de l'exploitation agricole, ce qui nous permet en effet d'avoir ces cultures support pour montrer justement toutes ces innovations.
Et donc, en permanence, il y a cette gestion de jardin tout au long de ces années pour en démontrer lors de ce salon.
Disons que depuis 2011, donc depuis la troisième édition du salon, on s'appuie sur l'ensemble des cultures et des ateliers qui sont présents sur le lycée agricole du Valentin et sur l'exploitation agricole du Valentin. On a la chance d'avoir un atelier de bovin lait avec un outil de transformation. Hein, il transforme donc le lait en fromage, en yaourt. On s'appuie bien sûr sur leur atelier arboricole avec des prunes, des poires, des pommes. On a eu la possibilité d'implanter de la vigne. Ça, c'était en 2015. On a aussi un support de démonstration pour la vigne. Et puis, on entretient aussi des plantes aromatiques et médicinales qui nous servent aussi de support de démonstration. Et chaque année, on réimplante des cultures spécifiques pour montrer les innovations sur les différents ateliers, notamment sur les grandes cultures.
Alors, en étant à l'écoute des agriculteurs, hein, qu'ils soient bio ou conventionnés, est-ce que vous avez, en quelque sorte, une image de ce qui ressort principalement dans les demandes ?
On répond avant tout à une demande technique, hein, les agriculteurs qui souhaitent toujours évoluer dans leurs pratiques et avoir donc connaissance des dernières innovations techniques, mais on va bien au-delà, à la fois sur le technique, mais aussi sur le savoir-vendre, hein, savoir sur quel marché se positionner. Donc il y a un gros travail autour de la valorisation des produits. Il peut y avoir aussi de l'innovation sur les conditions aussi de travail. Il va y avoir cette année notamment des démonstrations d'exosquelettes, notamment en maraîchage, mais aussi en viticulture, pour montrer en effet que on peut aujourd'hui trouver des solutions par rapport aux conditions de travail et améliorer nos conditions de travail.
Comme vous le citiez, il y a des valeurs hein, que vous défendez. Ce sont celles de la collaboration, l'innovation, comme vous le citiez, et la durabilité. On peut peut-être disserter sur chacun de ces trois mots pour en trouver un peu l'application sur Tech & Bio.
La collaboration, c'est en effet le maître mot donc, du salon. Il n'a pu se faire ce salon que grâce à cette collaboration. Collaboration avec des partenaires donc, en effet institutionnels, notamment le département de la Drôme, qui depuis le départ a cru en effet en ce salon et nous a accompagnés aussi autour de la région, hein, la région Rhône-Alpes et puis maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, mais une collaboration aussi avec les nombreux instituts techniques. Comme je vous l'ai dit, on essaye de couvrir l'ensemble des filières donc, de production agricole on est en relation avec l'ensemble des instituts techniques, que ce soit l'Institut de l'élevage, Arvalis Institut du Végétal, le CETIUM, les ADA hein, au niveau de l'apiculture, donc les associations de développement de l'apiculture, l'ensemble des structures en effet qui œuvrent à la fois au développement donc, des filières, mais aussi à la recherche et à l'innovation dans chacune de leurs filières. L'innovation, ça reste vraiment notre ADN. Hein.
Oui.
On veut vraiment témoigner des attentes fortes des agriculteurs, hein, que ça soit bio ou conventionnel. Les attentes fortes d'innover, les agriculteurs, ils innovent sans cesse, à la fois sur leur mode de production, aussi leur mode de transformation, leur circuit de distribution. Et c'est ça qu'on essaye donc de mettre en avant lors du salon.
En parlant d'innovation, quelle est la place de la terre dans l'agriculture aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a tendance à avoir peut-être des plantations qui nécessitent plus forcément un sol ?
Je crois qu'au contraire, il y a un retour aujourd'hui à la Terre et une prise de conscience, en effet, que le sol n'est pas uniquement un substrat et simplement un support de nos cultures. Les agriculteurs sont complètement conscients, en effet, qu'il faut que le sol fonctionne pour que la plante fonctionne. Et il en est de même pour l'élevage. Il faut que le sol fonctionne pour, en effet, avoir des bons foins, avoir des bons céréales qui répondent, en effet, à des produits de qualité pour l'élevage. Donc aujourd'hui, il y a une volonté forte des agriculteurs de se réapproprier le sol, à la fois les conditions donc de travail du sol, mais de maintien de la fertilité des sols.
Justement, en parlant de fertilité des sols, certains sont issus ou sont passés par l'agriculture conventionnelle avec les apports phytosanitaires qui l'ont peut-être dégradé. Est-ce que c'est dans votre aussi votre prérogative de remettre en état ces sols? Et est-ce qu'il y a des propositions faites lors de ce salon ou de ces conférences?
La fertilité des sols, elle concerne vraiment tous les agriculteurs, que ça soit bio et ou conventionnel. En agriculture conventionnelle, en effet, il y a bien sûr des produits phytosanitaires, mais pour autant une recherche de toujours maintenir cette fertilité des sols avec des engrais verts, avec des apports de matière organique. Il en est de même sur l'agriculture biologique. Alors oui, il n'y a pas de produits phytosanitaires et pourtant on peut avoir certains soucis, hein, avec notamment le cuivre qui est utilisable en agriculture biologique, mais qui peut en effet dans certaines situations créer des blocages au niveau des sols. Donc vous voyez que cette thématique de la fertilité des sols, qui est vraiment une thématique forte que l'on retrouve sur plusieurs ateliers donc du Salon Tech & Bio, c'est une problématique qui reste aujourd'hui très importante pour les agriculteurs.
Cet événement est organisé par les chambres d'agriculture, hein, je précise au pluriel parce que c'est mentionné. Il y a beaucoup de départements qui sont parties prenantes de ce salon au-delà de la Drôme. Hein.
Alors oui, et la preuve en est, cette année, il y aura même les chambres d'agriculture donc du Pacifique qui seront présentes au salon de l'agriculture, au salon donc Tech & Bio. L'idée, en effet, c'est de mobiliser l'ensemble des compétences des chambres d'agriculture, quel que soit en effet leur secteur. Je m'explique, on va chercher en effet le meilleur intervenant possible pour l'ensemble des ateliers, que ce soit des ateliers d'élevage, que ce soit des ateliers donc de production végétale. On mobilise l'ensemble du réseau et on va chercher justement le conseiller le plus compétent pour répondre justement aux attentes des agriculteurs.
Et on parle de planète, et on peut parler aussi de ces changements climatiques. Ça aussi, c'est une prise en compte que vous faites au sein de Tech & Bio. Et est-ce qu'il y a justement des propositions qui en émanent?
Autour du changement climatique, les agriculteurs, en effet, veulent montrer que, il peut y avoir des adaptations à l'échelle locale, mais il peut y avoir aussi des adaptations à l'échelle des filières et à l'échelle des marchés. Le problème, c'est que, il faut que le consommateur soit lui aussi prêt à évoluer dans son acte d'achat et dans son mode de consommation. Changer des filières, sur lesquelles on a une demande forte aujourd'hui, c'est difficile. Changer en effet des productions, changer des modes de production sur des filières où il y a toujours une forte demande, ça veut dire parfois prendre le risque de perdre des marchés. Donc il faut absolument que l'accompagnement au changement climatique se fasse en lien avec aussi l'évolution des pratiques de consommation du consommateur.
Comme vous le dites, il y a l'économie internationale. Et justement, est-ce que c'est aussi dans vos compétences d'étudier cet aspect économique de l'agriculture sous ses aspects différents et d'y trouver les meilleures solutions et peut-être aussi d'échanges avec des professionnels?
On cherche en effet à avoir un maximum donc d'ouverture à l'échelle nationale et internationale. Cette année, nous avons la chance d'avoir le vice-président de la Commission européenne agricole qui sera présent et qui va témoigner justement du rôle de l'Europe pour développer l'agriculture biologique sur nos territoires.
La durabilité, donc, c'est un maître mot aussi pour vous. C'est cette ressource en eau. Est-ce que ça aussi, c'est un important travail qui émane de Tech & Bio pour trouver des alternatives à certaines cultures qui ont nécessité d'eau? Est-ce qu'il y a peut-être des recherches pour en trouver une alternance sans pour autant impacter les professionnels?
Le sujet de l'eau est un sujet majeur, hein, c'est sûr, qu'il soit à la fois qualitatif ou quantitatif. On s'aperçoit en effet avec les nouveaux, avec les différents épisodes de sécheresse, qu'il nous faut évoluer un petit peu dans les pratiques donc de consommation de l'eau d'irrigation notamment. Pour autant, il n'y aura pas d'agriculture sans irrigation. Donc, optimiser l'irrigation, trouver en effet des systèmes les plus économes possibles, oui, mais conscient en effet que il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, et on le voit bien dans les témoignages qu'il pourra y avoir aussi d'autres pays. On a notamment une délégation donc, de Marocains qui vont être présents au Salon Tech & Bio et qui pourront témoigner en effet sur tous les efforts qu'ils ont faits depuis de nombreuses années en arrière. Hein. Ils ont bien plus d'expérience que nous sur ce sujet-là, et qui arrivent en tout cas au bout du bout quand il n'y a plus de disponibilité en eau.
Justement, vous citiez le Maroc comme exemple. Est-ce que cela a bouleversé aussi les productions qui y sont faites?
Question de production, ils s'aperçoivent eux aussi que du fait du moins de disponibilité en eau, ils sont obligés de réorienter certaines productions. J'ai eu des discussions assez intéressantes avec les Marocains sur cette production. C'est emblématique, hein, la menthe chez eux.
Oui.
Et en effet, ils consomment beaucoup de menthe. La menthe, il faut de l'eau, quoi. Donc, il y a quand même des interrogations pour dire, est-ce qu'on va maintenir donc une production comme celle-là? Bien sûr qu'on va la maintenir, mais on va diversifier, on va essayer aussi.
Les chambres d'agriculture qui sont associées avec Tech & Bio, est-ce que dans leur questionnement, est-ce qu'il y a des changements à envisager au niveau de l'agriculture conventionnelle par rapport au contexte climatique d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réelle prise en charge et de réflexion? On peut-être, à contrario, voir aussi le recul des lois bio concernant l'agriculture ces derniers mois. Ouais. Est-ce que pour vous, vous trouvez peut-être entre deux feux?
Alors pour répondre à votre première question par rapport à l'évolution du changement climatique et le positionnement des chambres d'agriculture, c'est clair que on s'aperçoit qu'on va chercher toujours plus au sud ce qu'on fait un petit peu les agriculteurs plus concernés par des climats un petit peu plus chauds. Aujourd'hui, vous avez les agriculteurs du nord de la France qui viennent voir en effet ce que l'on fait dans le sud, et nous, on va voir en effet ce qui est fait au sud donc de l'Espagne ou en effet vers les pays marocains ou tunisiens. Donc, il y a cette nécessité de se tenir informé, de se tenir au courant de ces techniques, de ces pratiques qui sont faites plus au sud. Mais l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas que ça. On ne peut pas uniquement envisager de changer de production. Il y a aussi des marchés et le consommateur fait appel encore à des produits locaux, et il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir maintenir ces productions, les développer, tout en limitant donc notre impact sur l'environnement.
On pourrait parler du sucre, notamment avec la betterave qui en émane. Justement, c'est cette problématique de produits phytosanitaires. Je ne sais pas pour d'autres types de cultures. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous êtes... Parce que on nous rétorque que le sucre, l'industrie du sucre est très porteuse, mais en même temps, à quelle destination et pour quel public? En sachant qu'en parallèle, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de cas d'obésité au niveau des consommateurs. Est-ce qu'il y a aussi cette réflexion de fond de ce qu'on doit vraiment produire pour un bien-être du consommateur? On peut parler du maïs hein, aussi, si
ouais,
vous voulez.
Sur l'usage des produits phytosanitaires en arboriculture, par exemple, quoi. Ça, en effet, l'arboriculture est une filière donc phare de notre département, de notre département de la Drôme. Bien sûr, elle fait appel à des pratiques donc conventionnelles, bien souvent, avec l'usage de produits phytosanitaires. Même en agriculture biologique, il faut quand même protéger les cultures de certains ravageurs, de certaines maladies. Et on utilise en effet des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique. Hein, mais pour autant, on essaye, que ce soit en agriculture biologique, que ce soit en agriculture conventionnelle, de s'approprier des techniques, s'approprier des modèles pour essayer de limiter donc l'usage de ces produits phytosanitaires, voire même de mettre en place des nouvelles pratiques autour notamment des phéromones pour éviter donc les ravageurs, la mise en place donc de tout ce qui est biotechnologie pour éviter l'usage de ces produits phytosanitaires, mais cela nécessite encore beaucoup d'expérimentation, nécessite encore beaucoup de recul pour avoir une efficacité et maintenir une production.
Donc ce salon s'adresse aux agriculteurs, hein, qu'ils soient bio ou conventionnés. Quelle est la considération du consommateur dans ce salon ?
Le consommateur, il a toute sa place parce que c'est lui qui conditionne en effet la production. C'est l'acte d'achat qui dicte en effet la production. Ce salon, il est dédié aux professionnels, donc aux agriculteurs, mais aussi à l'ensemble des professionnels de l'amont et de l'aval, donc de la production, pas directement au grand public et donc aux consommateurs, mais pour autant, le consommateur, par son acte d'achat, dictera demain les productions que l'on verra encore dans nos campagnes.
Et ça, c'est un autre sujet, c'est celui de l'économie. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment la partie prenante de Tech & Bio.
L'enjeu économique, il est pris en compte, donc, notamment dans les rencontres filières et marchés, hein, où on fait un état donc, de l'ensemble des filières. On sait qu'on a passé une période particulièrement difficile, hein, 2022, 2023, 2024, où en effet, avec le problématique de pouvoir d'achat, le consommateur s'est un petit peu détourné de l'agriculture biologique. On a la chance aujourd'hui de voir qu'il y a un petit peu une relance des marchés, et ça c'est une bonne chose. Les aspects économiques sont aussi pris en compte sur l'espace sourcing et débouchés, puisqu'il y a un gros travail qui va être mené avec le cluster bio et le Synabio pour arriver à mettre un petit peu en adéquation l'offre et la demande, c'est-à-dire entre les consommateurs, les transformateurs et les producteurs. Donc l'objectif, c'est en effet que les consommateurs puissent trouver des produits locaux à proximité, que les transformateurs puissent trouver aussi des produits locaux à transformer et que les producteurs puissent répondre à cette attente locale.
On a parlé de production, de transformation et la distribution de ces productions. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des propositions qu'on pourrait trouver dans Tech & Bio ?
La distribution a toute sa place dans ce salon Tech & Bio et on a plusieurs partenaires, notamment de la distribution, qui sont présents à Tech & Bio parce que la distribution, elle est vaste. La distribution, on parle souvent donc de GMS, dont certains, en effet, sont exemplaires sur le développement de la lecture biologique. Je mettrai Carrefour, par exemple, qui est un partenaire historique du salon Tech & Bio et qui a œuvré réellement au développement donc de filières comme la boule bio, ce qu'on appelait, hein, le pain bio donc de Carrefour. Mais il n'y a pas que la GMS dans les distributeurs. Il y a des distributeurs spécialisés, toutes les surfaces en effet spécialisées dans le développement de la nature biologique. Et nous devons absolument prendre en compte ces différents distributeurs pour assurer une valorisation locale et une valorisation économique donc de nos productions.
Donc là, ça s'adresse plutôt aux professionnels, hein, c'est ce salon. Est-ce qu'il y a aussi une vitrine pour le consommateur en prévision ou en réflexion ?
Non, malheureusement, on avait essayé, il y a une édition, on avait essayé en effet d'associer les consommateurs. Mais si vous voulez, on est tellement orienté sur la production la transformation, la distribution, qu'on ne répond pas réellement aux attentes des consommateurs en direct. Notre objectif, il est très technique. On essaye en effet de répondre à toutes les attentes des agriculteurs, quelle que soit leur filière, à la fois sur les innovations techniques, sur les innovations technologiques. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait en phase avec les attentes des consommateurs en tant que tels. Voyez, si je vous dis sur la partie fromage, par exemple, caprine, on va sur comment mieux gérer les maladies donc en élevage caprin, comment améliorer donc la qualité de l'alimentation pour avoir un lait de meilleure qualité, et puis on va avoir des ateliers sur comment mieux valoriser le lait de chèvre, par exemple. On n'est pas tout à fait sur des attentes, sur des questions réellement donc de consommateurs. Et on avait voulu en effet à une édition précédente, je crois que c'était en 2017, ouvrir un petit peu donc au grand public. C'était plutôt par en fin de soirée, on avait essayé de faire un marché de producteurs. Voilà, le consommateur, il vient en effet pour découvrir des produits. Découvrir des produits locaux, découvrir de nouveaux produits, des choses comme ça. Mais ils ne viennent pas spécialement pour voir ce que c'est que la dernière herscetterie, la dernière bineuse, le dernier outil de gestion justement quantitative de l'eau. Vous voyez, on est tellement sur du technique qu'on n'est pas tout à fait en phase avec les attentes donc de Monsieur Tout le Monde, quoi.
Depuis 2007, donc de cette création de Tekken Bio, est-ce que vous avez pu aussi constater une évolution et une adhésion de plus en plus grandissante des producteurs, hein, qu'ils soient conventionnés ou évidemment bio?
On a commencé tout petit en voulant répondre aux questions des agriculteurs locaux, des agriculteurs bio particulièrement. Ça, c'était en 2007. Et puis, on s'est très vite aperçu que, il y avait de plus en plus d'agriculteurs qui se posaient la question aussi de ces techniques donc qu'utilisaient les bio et qui pouvaient eux aussi mettre en place sur leur exploitation conventionnelle. Et donc, on s'est aperçu très vite, hein, dès la deuxième ou troisième édition, qu'on avait un visitorat qui était autant bio que conventionnel. Et ça, c'est très bien, parce que j'aime bien dire que les agriculteurs conventionnels d'aujourd'hui seront peut-être les agriculteurs bio de demain.
Et puis, le principal aussi pour ces agriculteurs, c'est d'y trouver leur compte. Est-ce que il y a cette transition, peut-être un peu difficile, mais en bout de compte, qui sera gagnant?
Ce qu'il est important de comprendre, qu'on doit accompagner chaque agriculteur dans son projet, son propre projet d'entrepreneur, en tenant compte des débouchés, de ses débouchés et de tous les enjeux techniques qu'il a aussi autour de sa production. On est conscient en effet qu'il y a des demandes des agriculteurs bio, mais que des solutions pour les agriculteurs bio peuvent aussi être utilisées par les agriculteurs conventionnels.
Il y a des stands, hein, des conférences. Est-ce que un agriculteur pourrait pouvoir tout voir ou au moins pouvoir tout écouter ce qui l'intéresserait? Ou alors est-ce qu'il en reste une trace des enregistrements ou alors des retranscriptions de ces conférences par la suite?
Alors, difficile. Difficile en effet de tout voir et de tout entendre. Il faut vraiment préparer sa venue au salon Tech & Bio et en fonction de ses productions, de ses attentes, bien anticiper donc sa venue et la préparer. On a le site du salon Tech & Bio, hein, sur le site internet qui vous permet en effet de retrouver les 70 conférences, les démonstrations autour donc d'outils, de technologies. Donc des temps forts aussi autour de sujets d'actualité, autour des filières et des différents partenaires.
Voilà, Tech and Bio, donc le site tech-du-6-n-du-6-bio.com. Je mettrai le lien sur la page de l'émission.
Super.
Bertrand Charéron, je vous remercie beaucoup d'être avec nous sur Erdua pour nous parler donc de cette 10e édition, hein, du Salon international agricole Tech and Bio, les 24 et 25 septembre.
Merci à vous.
Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci. Voilà. Et puis...
Musikfabrik, bitte zum Konzertpodium in die Halle B.